Amen. Merci pour cette invitation. Merci à Florence pour l'invitation de vous visiter. Merci à toute l'équipe aussi qui œuvre avec elle pour le bien de cette communauté. Merci à l'équipe de Louange qui a introduit aussi ce moment. C'est vrai que c'est une communauté qui m'a vu grandir et ça fait plaisir de voir encore des visages qui étaient présents en 1969. Eh oui, je date de Cro-Magnon. Non, voilà, c'est... J'ai eu le privilège, en fait, d'être conduit à l'église. Privilège, je ne l'ai pas toujours ressenti comme ça, mais privilège quand même d'être conduit à l'église dès ma plus tendre enfance, dès ma naissance d'ailleurs, et d'être ici dans cette église. Et j'y étais jusqu'en 1992. Voilà, donc comme ça vous savez un petit peu, c'est une église donc que j'ai aimée, où j'y étais baptisé d'ailleurs, au fond dans une baignoire, un baptistère, voilà, mais une baignoire fixe, un baptistère fixe. Je crois que dans le stress de nos vies, Dieu veut prendre des rendez-vous avec nous, avec chacun d'entre nous. Je ne sais pas si vous en avez conscience, mais des fois, il y a des choses qui passent et là, on se rend compte, ben oui, les années passent. Les années passent et finalement, il y a un rythme qui s'installe et il y a ce danger aussi, parfois des rythmes qui s'installent. Mais c'est important d'avoir ce rendez-vous quotidien. Ce rendez-vous, c'est certain, le dimanche avec le Seigneur, mais un rendez-vous quotidien avec le Seigneur. J'aimerais même rajouter un rendez-vous permanent avec le Seigneur, un rendez-vous d'amour, évidemment, ce rendez-vous qui renverse aussi toutes les forteresses qu'on peut rencontrer. Et j'aimerais vous parler, en introduction, avant d'entrer dans le vif de mon message, j'aimerais vous parler un petit peu du cœur ce matin. Alors, Florence a prié pour mon cœur, enfin voilà, pour que ça se passe bien, que mon cœur soit aussi touché. Et j'ai à cœur de vous parler du cœur. Dans la Bible, on trouve 158 fois, dans 151 versets de 22 livres bibliques, le mot cœur. Ça fait pas mal de fois, hein, donc c'est important. Dans l'Ancien Testament, plus de 860 fois ce mot aussi. Plus de 1000 fois dans toute la Bible aussi qu'on trouve des dérivés. Et à la base de la vie, vous le savez bien, alors là je me risque peut-être, il y a peut-être des médecins ou des infirmières, à la base de la vie il y a des cellules, jusque-là pas de problème, des milliards de cellules qui respirent, consomment, vont produire des déchets, et ensemble elles forment nos tissus, nos organes et notre cœur. Nos poumons, nos reins, notre foie, nos muscles, etc. Et toutes ces unités de vie ont besoin de l'oxygène apporté par le sang pour vivre. Jusque-là, ça va, je crois pas dire trop de bêtises. Et sans le cœur, en fait, pas de sang qui circule. Les muscles qui travaillent en sont de gros consommateurs, un véritable moteur. Le cœur apporte l'énergie à toute l'organisme, on en a besoin pour vivre. Le cœur fonctionne comme une pompe qui, grâce à ses contractions régulières, propulse le sang dans tout l'organisme. Ça va pour le cours de science? Voilà. Et assure l'alimentation en oxygène du corps tout entier. Le cœur pompe environ 8000 litres de sang par jour. C'est ce que j'ai trouvé, alors c'est une moyenne. Une baignoire, c'est à peu près 200-250 litres d'eau. Ça fait pas mal, hein. On peut remplir pas mal de baignoires avec un cœur. Enfin, bref. Le cœur bat en moyenne 100 000 fois par jour. Voilà, c'est des statistiques, j'ai pas à compter, hein. Le sang est composé de milliards de cellules, principalement de globules rouges, qui donnent sa couleur, et il y a environ 5 millions de globules rouges par millimètre cube de sang. Ça fait pas mal, hein. Notre moelle osseuse produit le nombre incroyable de 350 milliards de cellules sanguines par jour. Ça se renouvelle petit à petit. Dans le corps d'un homme de 65 kilos, circule 5 à 6 litres de sang, 4 à 5 litres chez les femmes. Alors, je n'ai pas compris pourquoi, mais peut-être Florence pourra vous expliquer. Alors, ça augmente jusqu'à 5-6 litres au cours d'une grossesse. Ça ne nous arrivera jamais pour nous les hommes. Un nouveau-né, environ 250 millilitres de sang. Et le sang transporte le dioxygène, O2 et les éléments nutritifs nécessaires aux processus vitaux de tout le corps, tous les tissus, enfin, etc., etc., jusqu'à l'évacuation aussi par les reins, le poumon, le foie, les intestins. Il permet également d'acheminer les cellules, les molécules dans tout le système. Et vous l'aurez compris, sans un corps, un cœur en bonne santé, pas de vie. Et c'est important. C'est important. Et c'est peut-être aussi pour ça, eh bien, que la Bible utilise ce mot cœur à de nombreuses reprises et le cite. Alors évidemment, la Bible parle plus de notre entendement, de notre personnalité, de notre perception. D'ailleurs, dans Proverbe 4, 23, il est dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Et je vous ai parlé du nombre de litres que pompe le cœur, et c'est ces sources de la vie qui jaillissent toujours. Et au psaume 90, Moïse va dire: enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Pour aller plus loin dans ce message, j'aimerais vous dire qu'il est bon de se souvenir que l'Éternel est le Dieu de tout réconfort. Et Dieu veut prendre soin de notre être tout entier. Non seulement de notre cœur, mais de notre être tout entier. Christ nous apporte la paix et on est affranchi. Et si le feu de l'épreuve nous frappe, eh bien, ce feu a pour conséquence de nous pousser dans la présence de Dieu. Lorsqu'on est habitué à un petit peu comme un cœur qui pompe, qui pompe, qui pompe, et en principe, il ne doit pas s'arrêter. Lorsqu'on est habitué d'entrer dans la présence de Dieu, lorsque le feu de l'épreuve est là, eh bien, on continue d'y entrer. On continue d'y entrer et d'être ressourcé, renouvelé. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de compter les bienfaits de Dieu. À ce vieux chant qui dit: compte les bienfaits de Dieu. Et nous, en tant qu'êtres humains, souvent on compte un petit peu les douleurs, les difficultés, un peu comme des coches, une de plus, une de plus, une de plus. Et finalement, on écrit un livre tellement, voilà, on a envie de partager toute notre souffrance, mais peut-être qu'il serait plus profitable, eh bien, de se souvenir de toutes les fois où Dieu a été là aussi dans l'épreuve. Dans 2 Corinthiens, chapitre 1, il est écrit au verset 3 à 5: béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Il nous réconforte dans toutes nos détresses afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. En effet, de même que les souffrances de Christ abondent pour nous, de même aussi c'est par Christ que notre réconfort abonde. Et je crois que le Seigneur veut nous apporter la guérison dans nos pensées, dans notre cœur, bien évidemment, dans notre entendement. Dimanche passé, avec Florence, pour ceux qui ont écouté le message, vous avez pu entendre qu'elle a parlé d'être à contre-courant de nos revendications. C'est juste, c'était le 1er mai aussi, et c'est un très bon message, d'ailleurs, que vous pouvez certainement réécouter sur le site internet. En tout cas, moi, je l'ai écouté à contre-courant. Et parfois, on a besoin aussi, pour trouver cette guérison, eh bien, d'être à contre-courant de ce que la vie, de ce que la société nous propose. Et ça va nous conduire vers une réconciliation dans nos pensées, dans notre cœur, dans notre entendement. On sait bien qu'il y a des maladies qui peuvent être le résultat de notre être intérieur. Nos pensées peuvent nous rendre malades parfois, et le Seigneur veut le bien de chaque être humain. Et il a donné Christ. C'est pour ça, eh bien, qu'on célèbre le Christ à chaque fois qu'on se rencontre, hein, mais à chaque jour qui passe, je le souhaite aussi de tout mon être. Christ qui va, eh bien, nous apporter un rétablissement spirituel, moral, psychique, physique, matériel. Dans tous les domaines de notre vie, il n'est pas limité. Il peut agir et il peut nous apporter aussi un rétablissement. Et il y a notamment quatre domaines dans lesquels il veut agir: le domaine spirituel, le domaine affectif, le domaine physique et le domaine matériel. Dieu veut rien d'autre pour nous que le meilleur dans chacun de ces domaines. Le meilleur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Amen.
La société, par contre, dans laquelle on vit, encourage chacun à vivre selon ses élans, ses impulsions, ses sentiments intérieurs et rejette l'idée d'une morale universelle. On veut être libre. On ne veut pas qu'on nous impose quelque chose. Et finalement, eh bien, ça transpire aussi sur notre façon de concevoir la parole de Dieu, de concevoir l'autorité. Et il arrive même, eh bien, que cette conviction intérieure ait plus d'autorité que la Bible. Et certains croyants, s'entrant même en être conscients, eh bien, on s'engage sur des chemins clairement en conflit avec le message biblique, en prétendant, eh bien, que c'est le Saint-Esprit qui les y conduit. Souvent dit, Dieu m'a dit, hein. Dieu m'a dit, c'est difficile d'aller contre quelqu'un qui dit Dieu m'a dit. Mais parfois, eh bien, il faut aussi savoir se laisser reprendre, se laisser toucher. Le monde de la pensée est l'objet premier de l'attention de Dieu à notre égard. Et si on parle de transformation, de sanctification, eh bien, c'est aussi au niveau de notre être intérieur, eh bien, que tout doit commencer. Dans 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5, il est écrit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. » Oui, nous renversons les faux raisonnements. C'est marrant, on pense renverser des forteresses, on voit tout de suite des murs qui vont tomber, mais là tout de suite il précise « Nous renversons les faux raisonnements. » Et ces forteresses, c'est des fois dans nos pensées. Et ces pensées, comme je l'ai dit, agissent parfois sur notre corps, sur notre santé aussi. Oui, nous renversons les faux raisonnements ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement contre la connaissance de Dieu et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. À mon avis, il faut faire très attention à l'idolâtrie de la conviction personnelle. C'est bon d'avoir une conviction, c'est bon d'avoir des convictions. Et la Bible, d'ailleurs, nous invite à avoir des convictions. On le voit à différents endroits, mais là aussi, ces convictions doivent être christocentriques, soit doivent être centrées sur le Christ, sur la parole de Dieu. Et si bien que des chrétiens ont une vie spirituelle chaotique, chaotante, c'est aussi parce qu'ils ont placé leur cœur au-dessus de la parole de Dieu. Et ils ne soumettent pas assez leur élan, leur affection, leur raison à la lumière des Écritures. Et on va parler ce matin du prophète Jérémie, un texte. Jérémie, face à un pays de Juda en pleine décadence spirituelle, nous donne de précieux enseignements sur notre pensée et sur les moyens de soigner notre pensée. Il dresse un diagnostic, donne le remède, et par son exemple personnel, il nous explique comment prendre ce remède. Alors écoutons le conseil de Jérémie dans Jérémie 17, versets 9 à 18. Comme je l'ai dit, il va commencer par poser un diagnostic. Ensuite, il propose une solution, le médicament, et pour finir, la marche à suivre, que j'appellerai la notice d'emballage. Première chose, le diagnostic. Alors ça, on est les champions du monde pour poser des diagnostics, surtout sur les autres. Surtout sur les autres. Jérémie 17, versets 9 à 11. Le cœur humain est plus trompeur que tout. Personne ne peut le guérir, personne ne peut le comprendre. Sauf peut-être celui qui a conçu le cœur, mais ça, on y reviendra. Verset 10. Moi, le Seigneur, j'examine les pensées et les désirs de tous. Ainsi, je peux traiter chacun selon sa conduite, selon le résultat de ses actions. Celui qui devient riche, de façon malhonnête, ressemble à une poule qui a couvé des œufs qu'elle n'a pas pondus. Au milieu de sa vie, ses richesses l'abandonnent, et au moment de sa fin, il n'est qu'un insensé. Jérémie, en bon médecin, explique les causes qui mènent les hommes à se rebeller contre Dieu et à en pâtir. Le problème se situe au niveau du cœur. On l'a lu, le cœur humain est tordu, est trompeur. C'est un petit peu le siège de notre pensée, de nos sentiments, de notre volonté. Notre cœur est trompeur et notre maladie, nous dit Jérémie, est incurable. Incurable, bien sûr, du point de vue humain. Nul ne peut se changer par lui-même. Il faut bien le comprendre, nul ne peut se changer par lui-même. Et l'Écriture nous affirme clairement eh bien, qu'on ne peut pas s'en tirer par soi-même, par nos propres efforts, par juste le fait d'avoir une bonne volonté, d'être persévérant. C'est bon d'être persévérant, mais on a besoin de ce grand plus, qui est le Seigneur, qui est notre Créateur. Il n'est pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre, et bien des croyants ont couru à l'échec parce qu'ils pensaient que c'était la volonté de Dieu, parce qu'ils ne voulaient pas avoir d'avis contradictoires. Lorsqu'on leur donne des avis contradictoires, oulala, c'est tout de suite pris contre notre propre personne, alors que parfois, eh bien, il est bon eh bien, d'avoir des fois d'autres avis, même si on n'est pas toujours appelé à les écouter, mais des fois, en se plaçant devant Dieu, ça nous défie, et au contraire, ça nous affermit, ça nous affermit. Des fois, ça nous pousse à réfléchir, mais pourquoi est-ce que je crois comme ça? Pourquoi est-ce que je crois comme ça? Alors des fois, les avis contradictoires, justement, nous affermissent dans cette conviction que le Seigneur nous a donnée, et parfois, ça nous pousse à réfléchir pour dire, ben non, c'était peut-être pas du Seigneur. Ça peut être dans les deux sens. Souvenez-vous que Dieu connaît nos pensées. Soignons le domaine de nos pensées. Laissons sincèrement Jésus visiter en profondeur nos motivations. Et parfois, eh bien, c'est bon d'être défié. Parfois, des gens voilà, qui nous freinent, même si, eh bien, au contraire, finalement, ça nous pousse en avant, parce que ça nous pousse à réfléchir pourquoi j'ai cette conviction. Jérémie prend comme exemple un homme qui s'enrichit malhonnêtement. Bien des mécanismes de notre monde reposent sur un désir excessif de gain. Derrière la quête de richesse, il y a cette recherche aussi de pouvoir. Et derrière ce désir de pouvoir, eh bien, se profile aussi le refus du règne de Dieu sur notre cœur, nos pensées, notre être intérieur. Malheureusement, l'aboutissement de cette course au profit à tout prix, eh bien, crée un vide intérieur. Comme le dit Jérémie, au moment de sa fin, il n'est qu'un insensé. C'est un peu dramatique comme conclusion. Ou à la fin, il est stupide, suivant les traductions. Derrière ces tentations qui séduisent si facilement notre cœur, eh bien, il y a une réalité de vide, de souffrance, qui nous blesse, qui nous entraîne vers la mort. Et c'est pour ça qu'on a besoin de venir vers le Christ pour remplir ce vide. Remplir ce vide, pas de n'importe quoi. Suivre nos propres pensées sans les soumettre au Christ, c'est aller au malheur et s'amasser un trésor de regrets. Et c'est important, eh bien, de s'arrêter, d'avoir le temps de la réflexion. Alors si on s'arrêtait là, on repartirait de cette salle complètement démoralisé, en se disant dépressif peut-être, mais la Bible et Dieu est bon, Dieu est bon. On va voir le remède. C'est les versets 12 et 13 de Jérémie 17. Un bon médecin ne se limite pas au diagnostic. Il va proposer un traitement approprié, en principe, qu'il a découvert. Et Jérémie, de même, ne nous laisse pas entrer dans le désespoir. Il nous propose une solution. C'est important. Le remède à notre maladie, eh bien, c'est la personne de Yahvé, l'Éternel. L'Éternel. Jérémie 17, 12 à 13, il va dire « Un siège royal plein de gloire domine le monde depuis le commencement. C'est le lieu de notre temple saint. » Qu'est-ce qu'on y fait dans le temple? On adore, on recherche la présence de Dieu. Ce siège royal est au-dessus et c'est bon de savoir que Dieu règne. Et en même temps, Dieu règne et il nous permet d'entrer dans cet endroit où il règne. Ce temple saint, comme on le fait aujourd'hui, comme vous le faites, en étant présent, soit par Zoom, soit ici dans cette salle, c'est le lieu de notre temple saint, le lieu où on s'approche, le lieu où on se ressource, le lieu où on est visité aussi. Ô Éternel, verset 13, toi l'espoir d'Israël, tous ceux qui t'abandonnent seront couverts de honte, ceux qui se détournent de toi, qu'ils soient comme des noms inscrits dans la poussière. En effet, ils t'ont abandonné, Seigneur, toi la source d'eau vive. Et cette source d'eau vive, eh bien, c'est là où Dieu règne qu'on vient épuiser. C'est là où Dieu règne. Ce siège royal domine le monde depuis le commencement. C'est le lieu de notre temple saint. Et c'est pour ça que c'est important, eh bien, d'adorer le Seigneur, de passer ces temps d'adoration, de louange, que ce soit en église ou que ce soit aussi seul, dans le secret de notre chambre ou dans la nature. Et ce médicament, eh bien, on pourrait dire qu'il a un petit peu trois emballages pratiques. Premier emballage de cette solution aussi qu'on trouve dans ce texte, c'est chercher la communion avec Dieu. Chercher cette communion avec Dieu. Jérémie se tourne vers le temple de Jérusalem. Jérémie venait comme Ézéchiel d'une lignée de prêtres. Il voit le salut comme on le lui a appris. Et pour nous, c'est plus le temple ou le lieu saint, mais c'est en plaçant notre foi en Christ qu'on peut s'approcher de Dieu. En Christ, qui a tout accompli, qui a payé de son sang aussi. Et c'est par le sang de Jésus, le sacrifice unique, parfait, eh bien qu'on est capable, qu'on a le droit de chercher la communion avec notre Créateur en passant par la croix. Si on a reçu cette grâce, n'hésitons pas, cherchons la communion de Dieu. Dans 2 Corinthiens 4, je vous ai lu tout à l'heure, il nous réconforte dans toutes nos détresses afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse, grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. Là encore, il y a cette clé, j'ouvre une parenthèse, c'est que si l'on est réconforté, c'est dans le but aussi d'en réconforter d'autres. Il y a vraiment une clé importante là. Ce n'est pas juste pour soi-même. Deuxième emballage, c'est de placer notre espérance en Christ. Yahvé, c'est l'espérance d'Israël. Il s'agit de lui faire confiance à lui en personne. Au contraire, l'espérance, tourner le dos, Seigneur, c'est dépérir. On l'a lu dans ces quelques versets en hébreu. Le verbe avoir honte est très proche de celui qui signifie se dessécher, être en conflit avec Dieu. Vivre dans la séparation, c'est comme une plante qui sèche au soleil. On se dessèche finalement. À l'opposé de cette source d'eau vive dont on a lu dans ce texte de Jérémie 17. Si Dieu seul sait nous sonder et nous juger parfaitement, il est aussi le seul à pouvoir nous guérir nos péchés. S'il y a des choses qui vous accusent ce matin, venez à Jésus. Venez à Jésus. Afin de pouvoir puiser à cette source d'eau vive, cette source de grâce, cette source de pardon. Tournons-nous vers le seul qui connaisse notre cœur, le seul qui peut vraiment apporter une solution. Et finalement, un autre emballage que je vous propose, c'est de s'abreuver auprès de la source d'eau vive. Jérémie compare Yahvé à une source d'eau vive au verset 13, Jérémie 17. Au chapitre 2, 13, Jérémie s'énerve sur ses compatriotes infidèles. Il les compare à des personnes qui puisent leur eau dans des citernes crevassées, plutôt que dans des sources rafraîchissantes. Jérémie 2, 13 nous dit ça, « Car mon peuple a doublement mal agi. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Et c'est important de colmater les brèches. Et là encore, seul le Christ, eh bien, nous apporte ce véritable colmatage qui peut boucher les trous, les fissures, tout ce qui produit des fuites dans nos vies. Dieu nous aide en s'offrant à nous comme ressource, sa parole, son esprit nous sont offerts. Et chaque jour, vous pouvez puiser. Chaque jour, vous êtes appelé à puiser à ces sources d'eau vive. Et Jésus reprend les métaphores des prophètes, décrit le Saint-Esprit comme un fleuve d'eau vivante. Lisez les évangiles. Dieu, l'Esprit, venu nous habiter, produit en nous la vie. Invitons-le à nous inonder, à nous fertiliser. Soumettons nos désirs à ses désirs. Et finalement, mon troisième point, il y avait le diagnostic. Le diagnostic, finalement, le remède. Et finalement, on a cette notice d'emballage. Le mode d'emploi. Je ne sais pas si vous lisez les notices d'emballage. Oui ? Ça fait peur, hein, avec des fois les effets secondaires. Jérémie 17, 14 à 18. Là, il n'y a pas d'effet secondaire. Guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé. Oui, ma louange, c'est toi. Pas mal, hein? Et ça, c'est à relire chaque jour. Quand vous avez des difficultés, des problèmes, peut-être que ce soit psychique, que ce soit de découragement, que ce soit physique. Guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé. Oui, ma louange, c'est toi. C'est pas les dieux du stade, c'est pas... Non, ma louange, c'est toi. Vers qui est-ce que je tourne mon cœur? Les gens me disent, où sont donc les menaces que l'Éternel a proférées, qu'elles se réalisent? Et moi, pour t'obéir, je n'ai pas refusé de marcher à ta suite en étant un berger. Je n'ai pas souhaité que vienne le jour des douleurs. Toi, tu es au courant de ce qu'a dit ma bouche, c'est devant toi que j'ai parlé. Ne deviens pas pour moi un sujet de frayeur, tu es mon seul refuge dans le temps du malheur. Que mes persécuteurs soient dans la confusion et je ne sois pas confus. Qu'ils soient saisis de peur et que je n'ai pas peur. Fais arriver sur eux le jour de la détresse et brise-les par un double désastre. Alors voilà, on est conscient peut-être de notre maladie. On est content d'avoir un médicament, mais comment le prendre ? Est-ce qu'il faut manger toutes les gélules d'un coup ? Ou nous faire une tisane avec le tube de pommade ? C'est utile d'avoir en main un mode d'emploi. Vous êtes d'accord ? Un mode d'emploi. Et parfois même de vérifier. Un mode d'emploi. On en trouve des fois. Je ne sais même pas ce que... Ah oui. On trouve des modes d'emploi dans la parole de Dieu, des modes d'emploi dans des boîtes de médicaments. Mais ce que je vous propose, c'est peut-être pas ce mode d'emploi-là, mais c'est le mode d'emploi, la parole de Dieu. Des fois, on est prompt et vous l'avez tous dit quasiment, oui, on lit, on va voir et autres. Mais lisez la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Alors on est conscient de peut-être notre mal, le cœur est tortueux par-dessus tout, personne ne peut le guérir, enfin on est conscient de ces choses-là, plus ou moins. Jérémie nous donne par sa démarche personnelle avec Dieu les enseignements tout pratiques sur comment compter sur Dieu. Je vais raconter une petite histoire avant de terminer. Au terme d'une visite médicale, un médecin présente à son patient une facture pour sa consultation et devant la somme qu'il devait verser, le patient se console en disant « Ben, après tout, il faut bien qu'il vive, ce médecin. » Voilà. Avec la facture, on lui remet une ordonnance et il se rend donc chez le pharmacien qui, après lui avoir fourni les médicaments, lui présente également une facture et se console encore en disant « Ben, lui aussi, il faut qu'il vive. » Et rentré chez lui, le patient prend tous les médicaments, les jette à la poubelle et s'écrie « Moi aussi, il faut que je vive. » Et malheureusement, beaucoup agissent de la même façon avec l'Évangile. Dieu nous parle. Et plus souvent qu'on veut bien le dire. Plus souvent qu'on veut bien le croire. Plus souvent qu'on veut bien... sans convaincre, Dieu nous parle, mais parfois ça nous plaît pas. Ça nous plaît pas et on jette parfois des perles à la poubelle, je l'ai fait. Je pense que vous aussi, peut-être ça résonne dans votre cœur parce qu'on a envie d'entendre autre chose. Seigneur, c'était pas la solution. Ou chez le médecin, on avait envie, on savait déjà, on avait tout vu sur Wikipédia comment se soigner de A à Z. Et on n'avait pas envie qu'ils nous disent de cette manière-là. Et parfois, on fait ça avec Dieu aussi. Avec Dieu aussi. Et parfois, on jette à la poubelle ces perles, cette parole de Dieu même aussi, ces trésors de l'Éternel. Et on oublie eh bien, que notre santé spirituelle peut être parfois en danger. Et cette façon d'agir mène à la mort spirituelle. Jérémie nous donne l'exemple, c'est très simple. « Guéris-moi, Seigneur, sauve-moi » Il ne va pas dire « Tu dois me guérir de cette manière-là. » « Donne-moi tel et tel truc, j'ai besoin de ça. »« Seigneur, je veux tel miracle qui se passe. » Et ça doit se passer comme ça, à telle date, à telle heure, à tel moment. Non, Jérémie dit « Guéris-moi, sauve-moi. » L'exemple est simple, si on veut guérir, il nous faut demander la guérison. Et je ne parle pas seulement de guérison physique, vous l'aurez compris. Guérison peut-être de blessures. Parfois, on a pu être blessé par d'autres personnes, des membres de nos familles ou même dans l'Église, on peut être parfois blessé. On peut très bien savoir plein de choses en théorie, nos pensées sont corrompues, que Jésus en est la guérison, et pourtant s'abstenir de demander celle-ci. Celle-ci. Des fois, on a proclamé même des belles prières dans les églises. Des fois, on a proclamé même cette prière que le Seigneur a appris, « Pardonne-nous comme nous pardonnons. » Oh là. « Pardonne-nous comme nous pardonnons. » Attends, mais lui, jamais je lui pardonnerai. Elle, jamais. Ah non, il m'a trop fait souffrir. Ah mais Seigneur, tu vois, c'est un hypocrite. Je peux quand même pas lui... Non, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et des fois, le Seigneur nous parle au travers de sa parole, nous donne des solutions avec telle ou telle pensée, tel ou tel verset, tel ou tel diagnostic. Et lorsqu'on s'approche de la table de la Sainte-Seine aussi, des fois, on sait certaines choses. Mais on se dit, ah mais il m'a trop fait souffrir, elle m'a trop fait souffrir, jamais. Mais si Dieu agissait de la même manière avec nous, oh ! Heureusement, il est un Dieu de grâce et qui agit pas de la même manière que nous. Merci Seigneur, pour moi aussi, j'en suis le bénéficiaire. Mais ce matin, on est invité à nous approcher du Seigneur et à progresser encore, à progresser encore et à demander cette grâce de Dieu. Soyons sérieux avec nous-mêmes, avec le clair diagnostic de la parole de Dieu, avec l'assurance qu'en Christ, eh bien, on a cette guérison. Complétons notre démarche. Le Seigneur nous demande d'exprimer activement notre désir devant lui. Jérémie a un souci, celui d'être victorieux en Dieu, de voir la cause du Seigneur triompher, alors que ses contemporains se moquent de lui. Ils refusent de l'entendre. Où est Dieu? Où sont ses jugements? Etc. La peur, la honte que veulent lui imposer les hommes, il les refuse parce qu'il désire être en paix avec Dieu. Il désire voir un progrès du bien et du vrai dans sa vie et dans la vie de la société. Au-delà de nos échecs, nos épreuves, n'abandonnons jamais le désir ni l'espérance de la victoire. Proverbe 24:16 nous dit « Car à cette reprise, le juste peut tomber et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. » Et là encore, si vous avez l'impression de vous être encore encoulé, revenez à Jésus. Revenez à Jésus, il est encore ce Dieu de grâce. Ne laissons pas notre faiblesse, nos erreurs, prendre le dessus là où la grâce et l'amour de Dieu veulent triompher. Ne laissons pas le diable agiter ses mensonges et nos fautes devant notre nez, alors qu'on peut toujours, au pied de la croix, livrer notre cœur à Jésus et recevoir son pardon. Alors je vais conclure. Jérémie 17, voici ce que déclare l'Éternel, « Maudit soit l'homme qui compte sur des hommes. » Jérémie 17, 5 à 8, « Maudit soit l'homme qui compte sur des hommes et qui fait des moyens humains la source de sa force. » Mais qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un buisson dans le désert, il ne verra pas arriver le bonheur, il aura pour demeure un aride désert et une terre salée où n'habite personne. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et place sa confiance en l'Éternel. Choisissez la bénédiction. Béni soit l'homme et la femme. Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne redoute rien lorsque vient la chaleur. Ses feuilles restent vertes. Il ne s'inquiète pas pendant l'année de la sécheresse et il ne cesse de produire du fruit. Alors Jérémie nous a proposé un diagnostic. Ensuite, il a proposé un remède, cette présence et cette communion avec Dieu. Et finalement, eh bien, il y a cette notice d'emballage, de demander à Dieu. « Seigneur, sauve-moi, guéris-moi et je serai guéri. » S'attendre au Seigneur. Et c'est ce que je vous propose ce matin pour votre vie, Église de Réveil de la Chaux-de-Fonds. C'est ce que je vous propose, de considérer cette solution du Seigneur, de considérer eh bien, cette marche à suivre, Ça paraît tout simple. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, guéris-moi. Même si ce que tu vas me dire me déplaît, ce que tu vas montrer au plus profond de mon cœur me déplaît, Seigneur, je veux agir en conséquence. Je vous ai lu en introduction de Corinthiens 1, 3. Et suivant, béni soit le Dieu et Père, notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, pas juste quelques-unes, mais dans toutes. Et dans toutes, il n'y a pas de fin dans ce mot. Dans toutes, c'est chacune de nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse, grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. En effet, de même que les souffrances du Christ abondent pour nous, de même aussi, c'est par Christ, notre réconfort abonde. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, Seigneur Jésus, merci. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur, pour Seigneur, le diagnostic que tu poses parfois sur notre vie qui peut parfois être troublant, nous faire peur ou nous décourager. Mais Seigneur, merci parce que tu poses pas juste un diagnostic terrible, mais Seigneur, tu nous donnes aussi au travers de ta parole, au travers de cette communion que tu désires qu'on cultive avec toi, Seigneur, tu nous donnes cette solution, ce remède. Et merci parce que tu nous expliques encore comment l'appliquer à notre vie. Seigneur, comment s'approprier aussi de ce remède. Merci Jésus pour ta présence. Merci Seigneur de bénir mes frères et sœurs dans cette assemblée, Seigneur, et ceux qui suivent peut-être en ligne. Seigneur, ta grâce sur chacun, sur chacune. Seigneur, que personne ne reparte, Seigneur, en laissant tomber à terre, Seigneur, ce que tu as montré dans le cœur. Seigneur, merci parce que tu veux, Seigneur, notre guérison, tu veux notre paix, tu veux notre bonheur. Tu veux notre joie. Et ce matin, eh bien, tu rappelles que tu veux guérir. Tu veux guérir celles et ceux qui ont peut-être le cœur brisé, qui ont été découragés, qui ont été maltraités, qui ont souffert même injustement, qui ont peut-être été trahis, peut-être qui souffrent à cause d'une maladie dans leur corps. Seigneur, tu veux guérir. Tu veux sauver. Tu veux apporter, Seigneur, cette onction d'amour et de vie dans chaque vie. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Merci à Philippe pour cette parole. Prenez un temps de silence devant Dieu et demandez au Seigneur quels sont les obstacles qui m'empêchent d'être en communion avec toi. Prenons déjà juste ce temps, un moment seul à seul avec Dieu. Quels sont ces obstacles qui freinent ma communion avec toi? Vous pouvez demander au Seigneur, Seigneur, comment est-ce que tu vois ma vie? Quel est le regard que tu poses sur ma vie, sur mon cœur? Et là où vous avez discerné qu'il y a des pierres, des difficultés, des obstacles, quels qu'ils soient, vous pouvez les offrir au Seigneur. Vous pouvez inviter le Seigneur dans votre situation. Demandez au Seigneur d'être souverain dans votre situation. Lui abandonner tout ce qui fait obstacle et l'inviter à vous donner sa guérison, ses solutions. Pour certains, ce sera le discernement. Pour certains, un renouvellement dans l'intelligence. Pour d'autres, la volonté de pardonner. Seigneur, merci parce que tu agis dans les cœurs. Et merci Jésus parce qu'il n'y a pas de trop grand obstacle pour toi, quel qu'il soit. Merci parce que tu as payé le prix fort. Tu connais notre situation. Tu es venu, tu t'es offert en sacrifice parce que tu savais que par nos propres forces, nous ne pouvions pas avoir un cœur pur. Par nos propres forces, nous ne pouvions pas être en communion avec toi. Mais tu as payé le prix fort pour nous délivrer, pour nous sauver, pour nous équiper, pour nous édifier, pour nous libérer.